jour, de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour refaire l'histoire de la domestication animale. Chien, cheval, chameau, vache, cochon, poulet, chat ou abeille nous accompagnent depuis la préhistoire. Pourquoi et comment les avons-nous domestiqués, c'est-à-dire apprivoisés et sélectionnés pour notre usage? Qu'est-ce que cette très longue histoire de coévolution et de domination dit de nous et des relations complexes, ambiguës que nous entretenons avec les autres animaux, sans lesquelles notre humanité ne serait pas ce qu'elle est? C'est cette histoire sans fin que retrace notre invitée, Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l'environnement, dans un ouvrage qui devrait faire date et référence, Histoire de la domestication animale, aux éditions de Lachaud et Niesley. Autour de la question pourquoi et comment avons-nous domestiqué les autres animaux? Bienvenue dans notre basse-cour.
Le poulet bicyclette de Ouaga, mesdames, messieurs, c'est une véritable institution.
Poulet, Ouagatoukou, poulet, poulet, Ouagatoukou, poulet, poulet, eh, eh, poulet, 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 Sumbala noma, poulet, Sumbala noma, poulet, c'est mon re bébé, poulet, c'est mon re bébé, poulet, Alaï bébé, poulet, eh, eh, poulet, poulet, eh, eh,
Et Miam, le poulet bicyclette de KPG et Simon Chenet à déguster dans les maquis de Ouaga, où vous nous écoutez, chers amis auditeurs sur 94 FM. Autour de la question pourquoi et comment avons-nous domestiqué les autres animaux et pas seulement les poulets? C'est cette fascinante histoire qui est loin d'être terminée, notre histoire de coévolution et de domination, que vous retracez dans votre dernier ouvrage, Histoire de la domestication animale. Valérie Chansigaud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous en studio pour partager donc cette longue histoire sans fin, bien plus complexe qu'on ne le pense au premier abord. Rappelons, Valérie Chansigaud, que vous êtes historienne des sciences et de l'environnement. Vous vous intéressez particulièrement aux liens tissés, pour le meilleur mais aussi pour le pire, entre les humains et leur environnement, l'homme et la nature, une histoire mouvementée. C'est d'ailleurs le titre d'un de vos précédents ouvrages. On peut citer aussi La nature à l'épreuve de l'homme. Ce qui vous a naturellement poussé, j'ai envie de dire, Valérie Chansigaud, à ce travail tout de même monumental, cette histoire de la domestication animale, une histoire sans fin que vous abordez dans cet ouvrage sur toutes ses facettes. Et elles sont très nombreuses, bien plus nombreuses qu'on l'imagine. C'est pas simple, hein. C'est une très longue histoire et qui n'est pas finie.
C'est une histoire horriblement compliquée. Mm-hmm. Parce qu'elle est faite d'une quantité infinie de nuances, de pièges, en fait, souvent sémantiques. On est capté par le vocabulaire. Le mot domestique, par exemple, domestiquer, semble extrêmement simple et évident. Et pourtant, c'est pas du tout aussi évident qu'il y paraît. Et donc, il s'agit de rentrer dans cette histoire qui s'inscrit en plus, qui s'étale dans le temps, sur le temps long, avec plein de zones d'imprécision qu'il faut quand même éclairer autant qu'on peut. Et c'est vrai que ça a été un travail considérable à faire pour essayer de transformer la masse d'informations scientifiques dont on dispose à, comment dire, pour que ces informations soient compréhensibles par le plus grand nombre et surtout que ça apporte une véritable information. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de simplement transmettre quelque chose, mais il s'agit aussi de pointer en quelque sorte une sorte de faisceau de lumière sur un point en disant, vous voyez, là, il y a des questions à se poser.
Vous avez changé à mon regard sur la domestication. Moi, j'espérais que ce soit vraiment une histoire de coévolution, on y reviendra. Et vous démontrez que c'est plutôt une histoire de domination entre les hommes et les animaux. Mais d'abord, vous avez parlé de questions sémantiques, de vocabulaire. Un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux nous alerte là-dessus. Olouchola Ichola nous dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la domestication? Quelle différence avec le dressage? Alors, une définition, qu'est-ce que c'est que la domestication, Valérie Chansigaud?
D'un point de vue, je dirais, étymologique, domestiquer renvoie à la maison, domus. Mais ce n'est pas simplement le fait de faire rentrer un animal dans la maison. Parce qu'à la limite, une mouche qui passe par là, une guêpe égarée deviendrait...
Une araignée,
exactement, très bon exemple, deviendrait automatiquement domestique sous prétexte qu'elle vit à côté de notre lit. La domestication est un phénomène qui est de nature biologique et qui repose sur la sélection des individus au fil des générations. Sélection qui va finir par transformer biologiquement, morphologiquement, le comportement des animaux qui sont soumis à cette domestication.
C'est donc sur le temps long, la domestication, ça commence par du sauvage qu'il faut capturer, apprivoiser et puis sélectionner. Et là, c'est sur le temps long de l'évolution. Hein,
exactement. Ça. Alors, c'est par des expériences récentes qu'on peut accélérer les choses, mais parce qu'on a, comment, on bénéficie en quelque sorte des expériences précédentes. Mais dans le cas des premières domestications, la seule chose que l'on peut savoir, c'est avoir une idée relativement imprécise d'à partir de quand on peut parler, par exemple, du chien, domestication du loup, mais à partir de quel est le moment initial où les premières tentatives ont été conduites, ça, clairement, ça n'existe pas. Il faut bien imaginer que l'homme préhistorique ne vivait pas n'était pas au coin d'une caverne en disant, ah bah oui, mais Charles Darwin explique comment domestiquer. Il n'a pas ces connaissances-là. C'est vraiment tout à fait empirique. Donc
on ne peut pas remonter au premier, mais on peut remonter, c'est un processus. C'est-à-dire que
oui.
Les premiers hommes, enfin nos ancêtres, les hommes préhistoriques, ont vécu avec des animaux et ont commencé tout de suite. Oui, on, dès le début, dès les origines, vraiment notre préhistoire, c'est là que démarre cette domestication des animaux.
Il y a toujours eu une influence entre la présence humaine sur un territoire quelconque et les espèces animales. Parce que c'était un chasseur, il maîtrisait le feu. Il y a eu des conséquences, d'ailleurs assez considérables, même de disparition d'espèces dès la préhistoire. Ce n'est pas un phénomène récent. Donc il y a toujours une sélection apportée par l'homme sur ces espèces-là. Grosso modo, il n'y a que les plus battantes qui arrivaient à survivre à la présence humaine. Les autres disparaissaient purement et simplement.
Et puis il y a aussi, inversement, on y viendra, une influence sur les hommes et les sociétés humaines. C'est-à-dire que
oui,
l'humanité
sûr.
Ne serait pas ce qu'elle est si elle n'avait pas domestiqué autant d'animaux. Et on pense évidemment aussi au cheval, enfin à plein d'animaux pour se nourrir, pour se vêtir, pour se transporter, pour vivre. Enfin, ça a tout changé.
Oui, oui. Mais, et donc cette sélection faite sur les animaux sauvages, dans certains cas, pour certaines espèces, en nombre assez limité, elle devient un processus répété au fil des générations et orienté. C'est-à-dire, peu à peu, on améliore la sélection de la génération précédente. Et on va améliorer, génération après génération, d'une façon brutale. On tue certains individus et on fait se reproduire les survivants pour obtenir quelque chose qui correspond à un besoin humain. Parce que c'est ça qui conduit la domestication, c'est de répondre à un besoin humain.
D'accord, c'est là que c'est une histoire de domination, c'est ça, ou une relation asymétrique, c'est parce que c'est toujours, c'est du point de vue humain qu'on domestique les animaux. Vous l'avez dit, Valérie Chansico, on va y revenir sur tout ça, le première domestication connue, c'est le chien, le meilleur et surtout le plus vieil ami de l'homme. À ce sujet, une question pour vous, soulevée par le biologiste et philosophe Georges Chapoutier, qui a été l'un des premiers tout de même à avoir mis en lumière les capacités, enfin l'intelligence et la sensibilité des animaux. On l'écoute.
Bonjour Valérie Chansigo. Une question très générale qui se pose actuellement en ce qui concerne le chien. Savoir, dans les premiers temps de la domestication du loup, qui a domestiqué qui? En d'autres termes, il y a par exemple en Afrique des troupes de loups qui font affaire, si j'ose dire, avec des troupes de gélada, de singes. Et on peut se demander si ce n'est pas les loups qui incitent à cette interaction, en quelque sorte. Donc peut-on imaginer la même chose chez les humains? Peut-on imaginer que, dans les premiers temps de l'interaction, bien sûr, ensuite, l'homme intervient pour utiliser le chien à sa manière, mais peut-on imaginer qu'au départ, ce ne soit pas nécessairement l'homme qui domestique le chien, mais le contraire? Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous, Valérie Chansigo, si on remonte très loin?
Alors, si on remonte très loin, le problème, c'est que ça laisse très peu de traces, tout ça. On n'a pas forcément une note analytique de savoir quelles ont été les motivations de nos ancêtres préhistoriques.
Clairement. Ou des premiers loups qui se sont mis à se joindre au groupe humain.
Encore plus.
Bien sûr.
Qu'il y ait des phénomènes de commensalisme, c'est-à-dire une espèce animale qui va s'approcher des populations humaines.
Et qui va vivre avec.
vivre à côté d'eux.
À côté d'eux.
Ou vivre avec, on y met un affect qu'il n'y a pas forcément. Mais vivre, en tout cas, profiter parfois purement et simplement de la présence des êtres humains. Dans le cas des loups, ça paraît assez probable. Sauf que très vite, et c'est pour ça qu'on parle de domestication, il y a ce phénomène de sélection naturelle. C'est-à-dire que c'est bien des êtres humains qui vont déterminer des individus sur la docilité essentiellement que l'on va garder, que l'on va faire se reproduire et pas l'inverse. Donc on ne peut pas dire que c'est la domestication est inverse ou égalitaire des deux côtés parce que le phénomène est par nature totalement asymétrique. C'est bien des êtres humains qui sélectionnent des animaux pour obtenir autre chose et jamais l'inverse.
Et ce sont des êtres humains qui sélectionnent. Alors en l'occurrence, des loups qui sont quoi ? Plus gentils, moins agressifs, c'est ça, hein ? Et vous démontrez bien, il y a une réduction de la taille, parfois une réduction du cerveau, enfin c'est une vraie sélection, pour le coup pas naturelle, mais humaine.
Tout à fait, c'est une sélection artificielle. Charles Darwin a beaucoup travaillé sur ce sujet parce qu'il voyait une sorte de modèle pour comprendre la sélection naturelle. Mm-hmm. C'est à partir de là, en fait, il s'en est servi comme une sorte de modèle pédagogique pour expliquer à ses lecteurs comment ça fonctionnait. Et clairement, en fait, il avait une intuition qui n'a été prouvée qu'au XXe siècle avec une expérience faite par un généticien russe avec un élevage de renards argentés. Darwin avait émis l'hypothèse que c'était probablement le mécanisme premier, c'était la sélection sur la docilité. Et ce généticien russe, en fait, a pris des renards argentés. À chaque génération, il gardait que les renardos les plus dociles et il tuait les autres. Et ces renardos dociles, il les faisait se reproduire un peu plus tard ensemble. Génération d'après, il recommençait l'expérience. Et au bout de 40, 50 générations, il a observé des modifications comportementales, mais aussi physiques, qui montraient que ces renards sélectionnés juste à cause de la docilité, évoluait vers quelque chose avec des caractéristiques très d'espèces domestiques, à savoir des plaques blanches, en fait une robe, ce qu'on appelle une robe pie, oui, une queue en tire-bouchon, des oreilles qui se cassent, et surtout un comportement totalement changé, parce que dès qu'un être humain rentrait dans la cage de ces renards modifiés, ces renards cherchaient l'attention des êtres humains, et notamment les fixaient leurs yeux dans les yeux des êtres humains. Et ça, c'est vraiment typique des chiens, par exemple.
Ce qui veut dire aussi qu'au fond, tous les animaux seraient domesticables, puisqu'on parle, par exemple, vous parlez par exemple des renards, c'est-à-dire que tous les animaux seraient domesticables si on compte ce temps long, cette sélection, ça veut dire ça ou pas ?
Alors,
c'est encore complexe, là. Hein,
oui, non. Si vous... Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir pourquoi. Imaginez la baleine bleue. Vous décidez
baleine bleue, d'accord.
Oui, de la domestiquer. Ça va être un peu compliqué. Mm-hmm. Ça va être un peu cher aussi et compliqué. Et du coup, là, tout de suite, on voit les limites matérielles pour réussir ça. Ce n'est pas forcément impossible à faire biologiquement, mais s'il faut attendre génération après génération en fonction de la docilité pour faire une sélection, c'est un projet impossible. Une espèce parasite qui réclame des hôtes différents, là aussi, ça devient très, très compliqué. Il faut qu'il y ait, une facilité. On a cherché, par exemple, à un moment, à domestiquer des araignées. Le problème des araignées, ce sont des prédateurs.
Ah, des araignées pour leur fil ou pour...
Exactement.
Ouais. Ou bien pour qu'elles mangent nos petits insectes.
Non, c'était pour la soie, parce que la soie d'araignée est absolument exceptionnelle. Mm-hmm. Et à Madagascar, durant l'époque coloniale, on a imaginé ça. Le problème, ce sont des prédateurs, et quand on met 50 araignées dans une même cage, le soir, il n'y en a plus qu'une, mais beaucoup plus grosse. Elle a mangé toutes les autres. Donc, ça devient très, très, très compliqué. C'est pas impossible à faire, c'est juste très très compliqué. Et encore faut-il aussi qu'on tombe sur une espèce qui soit pas naturellement soit très peu trop heureuse ou soit trop agressive à l'égard des êtres humains.
Il faut un entre-deux, c'est-à-dire qu'un vrai prédateur, ça marchera pas. Une espèce qui est au contraire trop heureuse et trop proie, ça ne marchera pas non plus. Enfin, ça sera plus compliqué.
Exactement, il faut qu'il y ait dans le comportement de l'espèce quelque chose qui rende un peu plus facile les premières étapes. Sinon, clairement, et c'est pour ça que toutes les espèces n'ont pas été domestiquées ou que tous les peuples sur Terre n'ont pas domestiqué, parce qu'ils n'avaient pas forcément ni l'intérêt ni les moyens.
Il y a des peuples qui n'ont pas domestiqué.
La plupart n'ont pas domestiqué d'espèces.
Ah, les peuples là encore, ont... vous nous scotchez, si j'ose dire.
Et en fait, et ça c'est vraiment intéressant, parce que c'est vraiment une sorte, encore une fois, d'équilibre entre l'intérêt et la capacité des peuples d'avoir les moyens, d'avoir encore une fois une finalité et la possibilité d'avoir sous la main une espèce un tant soit peu facile à domestiquer, au moins dans les premiers temps.
Et par exemple, quels peuples n'ont pas domestiqué ? Vous dites que la plupart des peuples n'ont pas domestiqué. Quoi, les chasseurs-cueilleurs, finalement, ne domestiquaient pas ou...
Bah, alors, après, c'est compliqué.
C'est compliqué aussi, on ne peut pas non plus
simplifier. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a des peuples, comme les aborigènes d'Australie, qui n'ont pas forcément domestiqué de nouvelles espèces, mais qui ont entretenu des rapports avec une espèce qui avait été domestiquée autrefois, à savoir le chien, le dingo australien. Donc, il y a aussi des peuples qui n'ont pas fait véritablement de domestication, mais qui profitent en quelque sorte de la domestication. Je vous donne un autre exemple qui est très connu. Les Indiens des plaines, les Sioux, les Comanches, et tous ces peuples extrêmement variés, ont découvert le cheval lors de l'arrivée des colons espagnols. Ils ont adopté le cheval. Leur culture a été totalement transformée par l'arrivée du cheval. Et pourtant, ils n'ont pas domestiqué le cheval. Ils ont adopté un cheval qui était déjà domestique.
Donc, c'est compagnonnage avec une espèce déjà domestiquée, si on peut dire. Hein.
Donc, il y a des peuples qui n'ont jamais domestiqué, qui n'ont jamais vu la couleur, en quelque sorte, d'un animal domestique. D'autres qui en ont vu, mais qui ne sont pas responsables de la domestication. Et puis d'autres qui ont fait réellement des domestications nombreuses et régulières.
Vous parlez des Indiens et du cheval. Alors, évidemment, on pense à tous ces animaux domestiqués parce qu'ils nous ont transportés ou servi au transport de nos marchandises, les chevaux, mais aussi les chameaux. Autour de la question, comment avons-nous domestiqué les chameaux ? On écoute une caravane passée sur RFI, Camels, interprétée par Bill Callahan.
Camels dying in the desert. Dropping to their knees. War is man's nature, and I take notes aggressively. Is hot too. So don't start no fire. Or we'll burn right up in two. Well, baby's gone to get more ice. We're icing down the dice. Camels in the desert. As you watch the drought on TV, from your roach, war is man's nature.
Camels Camel, Bill Callahan sur son chameau et sur RFI autour de la question pourquoi et comment avons-nous domestiqué les animaux, alors les chameaux, les chevaux, les ânes, ceux qui nous ont portés et transportés. Valérie Chansicault, vous consacrez votre deuxième chapitre après la domestication des chiens, le premier animal domestiqué, histoire de la domestication animale, deuxième chapitre, à ces animaux que nous avons domestiqués pour le lait, la viande et la force. Avant de parler des vaches, par exemple, arrêtons-nous donc sur l'âne, le cheval, le chameau qui nous ont transportés et ont transporté nos marchandises. Nous avons domestiqué pour ça.
Alors, d'une façon très schématique, on peut considérer que la domestication des chameaux, dromadaires, ânes et cheval interviennent c'est le troisième épisode de l'histoire de la domestication.
Ouais,
d'abord,
ouais.
Il y a eu effectivement le chien, qui a une particularité, c'est que la domestication du chien n'a pas changé la structure des sociétés. C'était des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Mmh. Et une fois que le chien a été pleinement domestiqué, elles sont restées des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Les herbivores, vaches, cochons, chèvres, eux ont participait à la transformation profonde des sociétés en faisant émerger des sociétés agricoles et pastorales.
Sédentaires ou pas toujours, mais en tout cas agricoles et sédentaires ou nomades, mais agricoles et pastorales.
Tout à fait. Tandis que la domestication du muscle, notamment le cheval et l'âne, puis plus tard du chameau et du dromadaire, interviennent dans un autre contexte. C'est des sociétés qui connaissent déjà la domestication et qui ne vont pas chercher en particulier le contrôle de la viande, du lait ou du fromage, quoique, même pour la vache d'ailleurs c'est discutable, mais ça on pourra y revenir.
Oui.
Et ça là c'est vraiment le muscle qu'on va chercher pour transformer des marchandises d'abord, puis...
D'abord des marchandises.
D'abord des marchandises, très probablement. Pour autant qu'on puisse retracer, après transporter des êtres humains dessus. Et du coup, ça a là, pour le coup, aussi largement contribué à la transformation des sociétés.
Et vous disiez, Valérie Chansigaud, que donc la domestication des herbivores, donc là-dedans c'est énorme, y a veaux, vaches, cochons, enfin oui, on peut même mettre les cochons là-dedans, les chèvres, tous ces animaux-là, a transformé nos sociétés. Est-ce que c'est lié, on a aussi pas mal dit que c'était lié au néolithique, à la sédentarisation, enfin, que ça a vraiment complètement transformé nos sociétés. Là, c'était pour le lait, pour la viande.
Alors, il y a certains spécialistes qui en doutent. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'essentiel de l'histoire des sociétés humaines agricoles est une histoire végétarienne. C'est-à-dire que la consommation de viande chute au moment où les sociétés abandonnent leur mode d'existence de chasseurs-cueilleurs pour le passer à un mode agricole, elles deviennent pour l'essentiel végétariennes.
Très intéressant. Là encore, ce que vous nous dites est contraire à nos idées reçues. C'est-à-dire quand finalement les populations deviennent sédentaires, on dit là c'est le début de la grande domination de l'homme sur la nature, et en même temps c'est là où les sociétés sont végétariennes, alors que chasseurs-cueilleurs, elles étaient beaucoup plus mangeuses de viande. Hein, c'est
tout
ça,
à fait. Alors elles ne sont pas totalement, elles sont jamais de fait ou quasiment jamais de fait végétariennes, mais elles sont presque complètement. Par exemple, les sociétés européennes du Moyen-Âge, comme la société chinoise à peu près jusqu'aux années 50, 60, 70, la consommation de viande ne devait pas excéder 2, 3, 4 kilos par personne, sauf par habitant.
Par habitant par an.
Par habitant et par an.
Ah oui.
Sauf pour l'aristocratie, qui, elle, en consommait des quantités absolument vertigineuses. Mmh. C'est-à-dire que ce que l'on assiste avec l'émergence de l'élevage et de la domestication de ces herbivores, quels qu'ils soient, c'est l'émergence de sociétés de plus en plus inégalitaires et de plus en plus verticales, avec des couches sociales de plus en plus hautes.
Est-ce que vous ne dites pas les animaux qui ont fait ça, mais enfin, il se trouve que c'est quand même concomitant. On a parlé de domination quand même, pour ce qui est de domestication animale. Et ça fabrique, en tout cas quand on domestique les herbivores, des sociétés de plus en plus inégalitaires.
Tout à fait. Parce que la domestication est un symbole de pouvoir. Avoir des animaux domestiques, c'est être plus fort, plus puissant, plus riche, plus respectable que son voisin. Ça permet aussi l'accès à la viande, d'ailleurs y compris dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Un accès différent, enfin, le bon chasseur, comme le grand propriétaire d'éleveur, va avoir plus de facilité pour se reproduire, plus d'accès aux femmes et au contrôle des femmes que les autres. Et on se rend compte que la viande, notamment dans les sociétés, joue un rôle fortement de construction des inégalités. Ça ne produit pas les inégalités, mais ça aide à la construction des inégalités, et notamment des inégalités hommes-femmes. Pas seulement, mais notamment.
Jusqu'où nous entraîne cette domestication animale? C'est insensé, parce que ce n'est pas elle qui, vous dites bien, mais qui permet ou qui en rajoute dans ce sens-là autour de la question pourquoi et comment avons-nous domestiqué les animaux? Tiens, pourquoi et comment nous sommes-nous mis à boire le lait de nos vaches? Il y a des chercheurs qui sont intéressés à cette question, notamment menés par Jean-Denis Vigne du Muséum d'Histoire Naturelle. Ils ont brisé aussi pas mal d'idées reçues avec un programme à l'époque qui s'appelle Lecce, un programme européen auquel a contribué une archéozoologue et archéobotaniste qui s'appelle Marie Ballas. Elle est devenue depuis médaille de bronze du CNRS. Écoutez son éclairage au micro d'Alice Milot.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu plus concrètement les systèmes d'élevage et tout ce que cela implique dans la relation que l'éleveur va devoir établir avec son troupeau, puisque dans le cas d'un élevage laitier, le fait de vouloir exploiter le lait de la femelle, ça implique quand même une proximité très grande entre l'éleveur et les animaux. Le geste de la traite, c'est un geste bien particulier qui implique une intrusion de l'homme dans la relation que la femelle entretient avec son petit. Et il faut que l'éleveur arrive à obtenir un consentement physiologique de la femelle. Si la femelle, elle ressent ce geste de la traite comme une intrusion, l'éleveur va être en face d'un échec parce que la femelle ne va pas délivrer son lait, ou en tout cas seulement une partie de son lait. Donc il est nécessaire pour l'éleveur d'arriver vraiment à établir un lien de confiance avec ces animaux. Alors, parmi les techniques justement qu'on peut mettre en œuvre pour arriver à traire les bovins notamment, il y a celle de pratiquer la traite en présence du veau. C'est probablement une pratique qui est très ancienne, qu'on observe encore aujourd'hui. On en a des témoignages directs à des temps reculés, dès le 4e millénaire avant notre ère, parce qu'on a des témoignages iconographiques de scènes de traite sur lesquelles le veau est présent.
Et qu'est-ce que ça raconte de ces hommes-là?
Mais ça raconte qu'ils ont déjà probablement un système très complexe d'élevage des animaux, et même probablement dans certains cas, de façon entremêlée avec les pratiques agricoles. Ça nécessite la mise en œuvre de tout un système technique derrière.
C'est pas rien, et ça n'a pas dû être simple d'inventer la traite, si j'ose dire. Ça implique une... On a parlé de rapport de domination, mais ça implique aussi un rapport de complicité, de connaissance et un peu de coévolution quand même. Rassurez-nous un peu entre les hommes et les animaux.
De coévolution déjà pour digérer le lait.
Et oui.
Donc on sait que tous les êtres humains sur Terre n'ont pas cette capacité.
À digérer le lait, absolument.
Mais... Alors, c'est compliqué, parce que complicité qui va là aussi dans un sens quand même assez particulier.
Oui, c'est pas la vache qui va boire. Elle va vivre avec nous, la vache, mais ce sont les hommes qui vont
traire son lait. Encore aujourd'hui, je discutais avec un éleveur du Jura il y a peu. Il me dit, mais une vache trop agressive, par exemple, va durer moins longtemps dans les troupeaux, parce que dès que la première occasion, on l'éliminera pour la remplacer par une vache moins agressive. Donc il y a toujours ce travail de sélection, même s'il est, il est sans doute moins fort. Il faut voir que beaucoup d'espèces domestiques, le chien, le cheval par exemple, nécessitent une sorte d'apprentissage, mais cet apprentissage ne se ferait pas de la même façon s'il s'agissait d'animaux purement sauvages. C'est-à-dire, c'est un apprentissage qui est aussi rendu possible par la domestication qui a été faite au préalable.
C'est là où se trouve la différence. Je repense à notre auditeur sur les réseaux sociaux qui parlait de domestiquer et dresser. C'est la différence.
Voilà,
domestiquer,
exactement.
C'est vraiment une espèce. Et dresser, c'est un animal ponctuellement. C'est
voilà.
Ça.
Et quand cet individu dressé meurt, en fait, il n'a pas transmis à sa descendance l'apprentissage qu'il a subi. Contrairement à la sélection, qui est, elle, génétique et héréditaire. Donc, il faut bien garder ça en tête pour voir la différence. C'est aussi pour ça, par exemple, que l'éléphant d'Asie n'a jamais été véritablement domestiqué, puisque l'éléphant est soumis par un traitement extrêmement agressif des jeunes éléphants qui vise à briser la personnalité de ces éléphantaux pour les rendre soumis. Et d'ailleurs, souvent, la plupart du temps, ces animaux demeurent enchaînés toute leur vie. Donc, c'est pas
ça, c'est des éléphants domestiques, qui ne sont pas domestiques, en fait.
Qui ne sont pas vraiment domestiques, dressés finalement.
Voilà. Ou...
Et on sait que dans 20 à 30% des cas, lorsqu'on a besoin d'un éléphant, on va le chercher dans la forêt.
C'est plus simple, finalement.
C'est parce qu'on n'arrive pas à les reproduire. Ils sont tellement stressés que, de toute façon, le taux de reproduction est très faible.
Parce que, bien sûr, dans cette sélection, il faut que ces animaux-là se choisissent, sélectionnés et dressés, entre guillemets, puissent se reproduire.
Voilà. S'il n'y a pas de reproduction, si le contrôle de la reproduction n'est pas assuré, clairement, c'est impossible de parler de domestication. C'est vraiment
Donc, il y a vraiment du contrôle toujours dans la domestication. Un autre de vos chapitres, de cette étonnante tout de même histoire de la domestication animale, Valérie Chansigaud, s'intéressait à la domestication des ailes. Alors ça va des oiseaux aux poulets dont on a parlé au début de l'émission, l'autruche, histoire insensée. Vous dites que c'est entre utilité et futilité, parce que là c'est autant pour leur beauté que pour l'usage qu'on peut en faire ou ce qu'ils peuvent nous apporter, que nous ou nos ancêtres les ont domestiqués.
Le poulet notamment, on ne sait pas exactement, les avis sont assez partagés, si on a domestiqué le poulet pour le manger, pour ses œufs ou pour d'autres choses. Et pour deux usages en particulier, un usage qui est extrêmement répandu, c'est l'usage des poulets de combat, des coqs de combat, et deuxièmement les poulets sacrificiels.
La question du sacrifice qui est très importante.
Extrêmement importante. On pense d'ailleurs, certains chercheurs vont même jusqu'à avancer, c'est une hypothèse qui est ancienne puisqu'elle apparaît au cours du 19e, que la domestication de toute une série d'animaux, notamment les bovins, ont été domestiqués d'abord pour servir d'animaux sacrificiels.
Là encore, ça ouvre, enfin, c'est très étonnant
On a des traces, par exemple, en Chine ancienne, de sacrifices qui impliquaient la mise à mort de centaines de bovins ayant la même taille, le même âge, le même sexe, la même couleur, le même type de cornes. Clairement, si on n'a pas un élevage à côté, c'est
bien
pas possible.
Sûr.
Donc, et dans le cas du poulet, c'est pas évident qu'on l'ait domestiqué pour des usages alimentaires. Ça nous paraît banal aujourd'hui, mais cette banalité est arrivée il y a peu de temps, en fait, après la Seconde Guerre mondiale.
Et aujourd'hui, jusqu'à provoquer des élevages de poulets en batterie. Enfin, on va pas revenir sur ces monstruosités d'élevage aujourd'hui.
L'usage notamment de poulets de combat. On a même un exemple d'ailleurs de poisson qui a été domestiqué pour servir de poisson le combattant, pour servir dans des combats comme ça.
Oui, c'est un petit poisson d'aquarium, le combattant.
C'est vraiment très très étonnant parce que là, ça repose pas sur un besoin vital, c'est pas pour se nourrir, c'est vraiment pour répondre à des besoins culturels.
C'est ça, comme quoi ils nous ont. Ça marche vraiment dans les deux sens quand même, cette influence ou cet impact que nous avons eu volontairement sur les animaux, mais eux en retour nous ont modifié, ont participé à nos pratiques culturelles. Racontez-nous l'histoire de l'autruche, elle est insensée, l'histoire de la domestication de l'autruche.
Oui, alors il faut replacer ça dans l'usage qui est absolument délirant des plumes dans la mode. Féminine, mais pas seulement, beaucoup féminine quand même, il faut dire, au 19e siècle. À la fin du 19e, dans la deuxième moitié du 19e, toutes les femmes ont des chapeaux et sur la totalité des chapeaux, il y a des plumes, mais voire aussi des morceaux d'oiseaux, des oiseaux entiers. Ça peut être des becs, des pattes. Je connais même une publicité d'un modiste qui était très fier, modiste parisien, était très fier parce qu'il avait réussi à faire un beau chapeau, selon lui, avec un nid de colibri avec les parents naturalisés qui nourrissaient des petits oisillons, eux aussi naturalisés.
Oh mon Dieu, j'en veux pas de ce chapeau-là.
Donc, il y avait une surexploitation très grande de certaines espèces parce qu'il y avait des plumes ornementales. Et des Sud-Africains ont l'idée de mettre en place des élevages d'autruches parce que, effectivement, les plumes d'autruche peuvent servir de remplacement par rapport à des plumes d'oiseaux sauvages. Et à la fin du 19e, il y a toute une tentative d'élevage, on va dire, industriel qui se met en place avec un début de domestication de l'autruche. avec un succès plus ou moins grand au fil du temps, parce que en fonction de l'évolution de la mode, après 1918, en fait, l'usage des plumes s'effondre dans l'habillement féminin et ces élevages
et
s'arrêtent.
Et on n'a plus besoin des autruches pour ce qui est donc de la domestication de ces oiseaux-là. On va passer à un autre animal domestique. Alors, est-il domestiqué ou pas, qui adore les oiseaux, justement. Ce sont les chats. Allez, on remonte d'abord bien loin dans notre préhistoire avec l'archéozoologue Jean-Denis Vigne sur justement la découverte des premiers chats domestiques, apprivoisés, on l'écoute.
À Chypre, en début des années 2000, sur la fouille de Chilles Rocambos, que dirigeait Jean Guilaine et sur laquelle je travaillais avec lui, on a découvert une tombe humaine avec un chat enterré avec l'humain. Et le rituel montre très clairement que ce chat n'était pas l'espèce chat, c'était un individu chat qui accompagnait l'homme dans l'au-delà. Et ça veut dire qu'il y a un lien étroit. De quelle nature exacte, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a employé prudemment le mot apprivoisé. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit le mot qu'il faille employer. On ne peut sans doute pas parler de chat domestique, parce que le chat en question, c'est un bon gros chat qui a un format de chat sauvage. Mais ce dont on peut parler, c'est effectivement de processus de domestication. Alors ça, c'était la plus ancienne relation homme-chat connue, hein, qui est datée aux alentours de 7000 avant Jésus-Christ, 7000-7500. Et depuis, les fouilles que nous menons toujours à Chypre, mais sur un autre site, plus ancien de plus de 1000 ans, montrent que le chat a été introduit depuis le continent, par bateau lui aussi probablement, et que cette relation homme-chat finalement est beaucoup plus ancienne encore que cette tombe. Elle a débuté très probablement au tout début de l'agriculture. J'ai écrit dans un petit bouquin que le chat était l'animal domestique des agriculteurs, parce que le scénario qu'on imagine et qui s'étaye de plus en plus, c'est que l'agriculture provoque l'accumulation de stocks et de déchets agricoles qui attirent les rongeurs dans les villages. Et les prédateurs naturels de ces rongeurs, ce sont les petits carnivores, en particulier le chat, qui s'est auto-domestiqué d'une certaine manière. Il est rentré dans les villages de l'homme parce qu'il y avait à manger. Et très rapidement, sans doute, le processus a été renforcé par une intentionnalité de la part de l'homme. Donc l'histoire de domestication du chat, c'est une très vieille histoire finalement. On a longtemps cru que c'était quelque chose de récent avec les chats égyptiens aux alentours des premières dynasties, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien, et puis qui s'est reproduit probablement à plusieurs endroits dans le monde. Là, on est au Proche-Orient, qui est le plus ancien endroit connu. J'ai parlé de l'Égypte, où un phénomène semblable a dû se produire 5 ou 6 millénaires plus tard. Et tout récemment, il y a un article qui est paru de collègues chinois avec lesquels je travaille d'ailleurs, qui montre qu'un phénomène semblable s'est produit en Chine aussi. Alors ça reste encore un peu obscur. Est-ce que c'est des chats qu'on a introduits du Proche-Orient? Est-ce que c'est des chats locaux chinois? Mais un phénomène semblable de concentration des stocks agricoles, apparition des rongeurs dans les villages et développement d'une relation privilégiée entre l'homme et le chat.
Bon, l'histoire de l'homme, du chat et de la souris, Valérie Chansigo, c'est une très vieille histoire. Est-ce qu'on peut parler de domestication pour le chat?
Ah, c'est très, très compliqué. Alors, la totalité des propriétaires de chats qui vont m'écouter sont persuadés que leur chat vraiment est parfaitement une espèce domestique capable de les reconnaître. Mais par exemple, la reconnaissance de leur maître, les chats, quand on fait de véritables expériences avec plusieurs de façon neutre, etc., les chats échouent lamentablement à reconnaître leur maître. Les chiens, ça marche assez bien, ça c'est clair. Le chat, pas du tout.
Donc il ne serait pas si domestiqué que ça.
Il est dans une zone grise, entre les espèces purement sauvages et les espèces clairement domestiques. Le chien, par exemple, le ver à soie, par exemple, il n'y a aucun doute sur le
domestique,
fait qu'il est domestique. Et dans cette zone grise, il y a plein d'espèces qui sont à des stades intermédiaires, en quelque sorte.
Et les abeilles chat,
les abeilles, notamment, où on n'a vraiment pas de certitude qu'elles aient été domestiquées, alors même qu'elles ont fait l'objet de beaucoup de sélections, notamment dans les périodes récentes, où on a voulu améliorer, avec ce vilain terme inspiré de l'horticulture, les abeilles. Et c'est vraiment, on a beaucoup de cas, d'exemples, avec des inconnus. Donc, il faut accepter, quand on aborde en quelque sorte la domestication, que tout n'est pas clair et net. Il y a plein de zones d'ombre dans cette histoire.
Et quand on parle, quand Jean-Denis Vigny ou d'autres parlent d'autodomestication, vous en parlez un moment pour l'homme. Hein.
Oui.
On peut parler d'autodomestication.
Alors, c'est compliqué, l'autodomestication, parce que la domestication repose sur un mécanisme, comment dire, c'est une sélection délibérée. Est-ce qu'on peut délibérément s'autodomestiquer? Je vois pas trop. Et d'ailleurs, même pour l'homme, c'est la limite. Darwin imagine, même si l'on ne pourra pas le terme, cette notion. Et tout de suite, il précise, mais attention, là, il n'y a pas eu d'intentionnalité.
Et c'est ça, voilà la différence.
Et du coup, dans le cas du chat, il y a eu une adaptation, clairement, mais autodomestication, peut-être pas. Mais adaptation, c'est certain.
Oui, et coévolution entre le chat et l'homme, comme entre l'homme et tous les autres animaux, autour de la question pourquoi et comment avons-nous ou pas domestiqué les chats. Allez, on continue de s'interroger avec Gilles Barbert et son petit chat domestique sur RFI.
Cha-cha-cha domestique, pas trop de tralala, pas dramatique, mais sous mon manteau de fourrure il y a un tigre. Caresse-moi et tu verras, je suis un cha-cha-cha très docile. Le plaisir pour moi, ah, ah, c'est bien facile, mais derrière mon sourire j'ai les dents de crocodile. Approche-toi et tu verras, je suis douce jusqu'à ce que j'aperçoive ma proie, c'est toi. Tu éveilles mon instinct sauvage et romantique. Animal, je sors mes griffes quand je te vois. Domestique.
Domestique ou pas, de Gilles Barbert sur RFI. Autour de la question pourquoi et comment avons-nous domestiqué les autres animaux, nous sommes en compagnie de l'historienne des sciences et de l'environnement Valérie Chansigaud, notre invitée pour sa géniale et assez monumentale histoire de la domestication animale parue aux éditions de La Chaux et Niestlé. Une histoire avec ou sans fin, c'est tout le sens de la question soulevée par mon confrère de Science et Vie, Thomas Cavaillé-Foll.
Au cours de notre histoire, il y a eu bon nombre de domestications animales. Est-ce que je voulais savoir s'il y en avait toujours en cours, en fait, s'il y a de nouvelles espèces qui étaient en passe d'être domestiquées.
Votre réponse, Valérie Chansigaud.
Oui, beaucoup.
Beaucoup d'espèces qui sont en train d'être domestiquées.
En fait, le phénomène s'accélère, vraiment. Il s'accélère, je vais donner trois exemples rapides. Déjà, à partir de la fin du 19e, début 20e, il y a eu une accélération formidable autour des laboratoires, parce qu'on a eu besoin d'animaux standardisés, et ça repose sur une véritable domestication avec une sélection, la production...
Des souris de laboratoire, des moutes drosophiles...
Les drosophiles, évidemment, les hamsters qu'on a été chercher dans la nature, et de ces individus sauvages, on a fait une sélection pour que ça soit des individus manipulables et avec certaines caractéristiques morphologiques et physiologiques. Bref, c'est vraiment là, clairement, une sorte de hotspot de la domestication animale. Il y a un deuxième terrain où on a beaucoup domestiqué depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et c'est vraiment un phénomène qui est important, c'est tout ce qui concerne l'aquaculture. Alors, là aussi...
À l'élevage de poissons, de crevettes...
Tout à fait, parce qu'on a besoin effectivement d'animaux standardisés, qui se reproduisent vite, qui se reproduisent toute l'année, etc. Avec une croissance plus rapide. Et ça repose sur des phénomènes de domestication, même si toutes les espèces impliquées dans l'aquaculture ne peuvent pas être considérées comme domestiques. Là, c'est la zone grise que j'évoquais tout à l'heure.
Oui.
Avec des espèces truites, saumons, où on a vraiment des lignées domestiques de façon claire, et d'autres où le, je dirais, le travail est en cours. Et il y a un troisième champ qui pourrait aboutir à de nouvelles formes de domestication, c'est l'élevage des insectes. Parce qu'on imagine que la faim dans le monde devrait être résolue par l'élevage des insectes, ce qui est une idée absolument inepte, parce que la faim dans le monde repose sur un problème d'inégalité sociale et pas de
ressources,
de ressources alimentaires. Donc c'est pas en changeant la production de ressources que on changera en fait la pauvreté dans le monde. Et ça par contre, ça va aboutir très certainement à quelques espèces nouvelles qui vont être domestiquées dans les années qui viennent.
Insectes domestiqués. Donc on est encore en train de domestiquer des animaux et puis aussi on assiste quand même, alors sur le globe entier, à beaucoup plus d'animaux qu'on fait rentrer chez nous, alors domestiques comme on les appelle, c'est-à-dire d'animaux d'attachement. Vous commencez le livre en parlant d'un petit cochon d'Inde. Moi j'en ai eu aussi un petit cochon d'Inde, j'avais mis un petit lapin domestique. Et puis les chats, les chiens, les nacs, enfin aujourd'hui partout dans le monde, on domestique pas, mais on vit autrement avec ces animaux domestiques.
Alors il y a dans ce nombre, il y a des espèces qui sont clairement domestiques et qui ont été domestiquées, le cochon d'Inde par exemple, il n'y a absolument aucun doute. Par contre, il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve chez ces nacs, ces nouveaux animaux de compagnie, qui ne sont que des animaux de compagnie. Même s'il y a certains éleveurs de serpents qui essayent de faire des sélections de certaines couleurs, par exemple, pour autant, c'est totalement abusif de parler de domestication.
Ces serpents-là restent sauvages, même quand ils sont...
Disons que le processus en cours qui permettrait de parler de domestication est clairement pas établi. C'est pas parce qu'on fait une reproduction entre quelques individus sur quelques générations qu'on peut sortir le champagne en disant voilà, ça y est, c'est une espèce domestique. C'est des choses quand même un tant soit peu plus compliquées.
Plus complexes, sur le temps long, on l'a bien compris, qui met en lumière vraiment des questions de domination, d'inégalité sociale aussi. Enfin, ça c'est étonnant. Qu'est-ce qui vous, parce qu'on arrive au terme de cette émission, vous a surpris le plus? Est-ce que c'est l'exemple d'une domestication ou est-ce que c'est... ce fil que vous avez tiré et qui amène un peu une autre lecture aussi de notre humanité et des moyens, comment faire autrement justement pour peut-être vivre avec et pas seulement vivre des autres animaux.
C'est que ce qui est très très curieux, c'est de voir à quel point les animaux sont invisibles et invisibilisés en tant qu'individus, en tant que... Par exemple, moi, j'ai été frappée de voir que 75% des chiens de la planète étaient des chiens errants. Alors, pas comme on imagine dans les pays riches où les chiens errants, en fait, c'est très limité. C'est un chien qui s'est enfui et qui va retrouver son maître sous les 3 jours. Non, c'est des vrais chiens qui se reproduisent en périphérie des villages et qui ont une durée de vie absolument très courte et une qualité de vie absolument lamentable.
Chien que nous avons domestiqué. Hein.
Et c'est ça qui est absolument fascinant. C'est-à-dire faire autant d'efforts pour aboutir à quelque chose d'aussi une transformation aussi radicale d'une espèce sauvage géniale, à savoir le loup, en quelque chose d'autre qui est quand même aussi génial, à savoir le chien, pour les faire vivre dans des conditions pareilles. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a acquis véritablement avec ça?
Oui, pourquoi ne pas avoir un peu plus de suite dans les idées? Merci beaucoup Valérie Chansego, c'est à toi de nous faire réfléchir sur aujourd'hui aussi. Merci d'être venu en direct pour partager donc toutes ces pistes, toutes ces relations bien plus complexes qu'on ne pense entre les hommes et les autres animaux. Bon, pour le pire, on l'a dit souvent, mais aussi pour le meilleur, parfois tout de même. Je rappelle le titre de votre excellent ouvrage, c'est vraiment le premier de ce genre-là aussi complet, Histoire de la domestication animale, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, éditeur de tous vos autres ouvrages précédents. Merci Valérie Chansego.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, fidèles amis auditeurs. Autour de la question, comment les maths aussi font leur cinéma? Vous allez avoir droit demain à une super séance de rattrapage de films et de séries qui mettent en scène les maths. Il y en aura pour tous les goûts, même les plus inattendus, dans notre Radio Ciné Club Mathématique, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à tous nos possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.